millions d'euros transformés en lingots d'or en Italie pour quitter l'Union européenne et passer sous les radars. Une partie de ces biens étaient ceux de la DZ Mafia.
C'est la fin de ce journal, 17h10.
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, Radio G vous propose de vous donner de la visibilité en participant à la 7e édition de Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Il vous suffit de proposer une chanson originale, texte et musique, et de remplir le formulaire sur radiovision.fr. Si vous êtes sélectionné, vous participerez au concours et vous serez soumis au vote du public en étant diffusé sur le site et l'antenne des radios partenaires. Inscription libre et gratuite avant le 19 avril 2026 sur radiovision.fr.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue sur Topette, votre rendez-vous sur Radio G au 101.5 FM. Ici on parle, on découvre et on partage de bons moments pour bien terminer la journée. Alors prenez quelques instants pour vous poser, ajustez le volume, c'est parti pour une heure ensemble à l'antenne. Ce soir, on reçoit 4 artistes qui se sont réunis pour créer une exposition assez spéciale qui mélange plusieurs disciplines et utilise les pigments de certaines pierres. L'expo s'appelle Pierre-Feuille-Ciseaux et je ne vous en dis pas plus, on la découvre dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout pour ce soir. Il y aura aussi l'agenda culturel pour trouver de quoi s'occuper durant le mois et un peu plus tard, la chronique d'actu de Mathéo.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, nous avons du monde en studio. Il y a Aurore Besson, plasticienne. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Il y a aussi Aya Takagi, si je dis bien, peintre franco-japonaise. Bonsoir Aya.
Bonsoir.
Yann Lebaudic, sculpteur de bois. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Et Jolion Derfeuille, vidéaste. Bonsoir Jolion.
Bonsoir.
Vous faites, vous quatre, partie du projet, mais j'aimerais savoir qui a lancé cette grande aventure et comment est née l'idée de cette exposition collective.
Alors, il manque quand même une personne qui n'est pas ici, qui n'est pas présente ce soir, Katarina Kudelova, qui fait partie du Quatuor. On a, je me permets de parler, hein. On a lancé ce projet, on est donc quatre pour trois duos. On a appelé ça un Quatuor pour trois duos au départ. Et après, on a trouvé un autre titre qui alliait mieux toutes les pratiques qu'on allait faire. Et donc voilà, il manque Katarina dans ce projet. Et Jolion est avec nous car il nous aide au niveau sonore, au niveau
lumière.
Vidéo, lumière aussi, oui. Et image.
C'est ça, tout à fait.
Tu captes un petit peu cette aventure.
Oui, je documente l'exposition, on va dire. Voilà. Enfin, du cas, le making-of de cette exposition. Voilà.
Donc un bon petit groupe. Et du coup, comme tu l'as dit, vous avez changé de nom. Pourquoi maintenant ça s'appelle Pierre-Feuille-Ciseaux ?
Bah, c'est quand on a réfléchi au lien qui pouvait nous unir tous les quatre, on s'est dit le seul lien qui convient, c'est le matériau utilisé. Donc on a cherché dans nos matériaux, on utilise de la pierre, on utilise des feuilles de papier, des feuilles de végétaux.
Végétales.
Et à partir de pierre et feuilles, on a pensé aussitôt ciseaux.
Et puis ça avait ce petit côté ludique aussi qui nous plaisait bien, de sortir un petit peu du cadre sérieux d'un titre.
Oui, et ça permet de savoir qu'il y aura plusieurs choses à voir, plusieurs matières. Oui. Et vous venez tous de disciplines très différentes, peinture, sculpture et même couture. Comment ces univers se sont-ils rencontrés ? Comment vous êtes rencontrés aussi ?
On s'est rencontrés par affinité artistique, peut-être avec Aya. Aya, on s'est rencontrés dans une formation avec Katarina. On est dans la même région depuis un long moment, on se connaît bien, on avait envie de faire des choses ensemble. Et puis, alors tout à l'heure, vous posiez la question de savoir comment était né ce projet. Avec Aya, on travaille en duo depuis 5 ans. Avec Yann, on vit ensemble, mais on a commencé à travailler aussi depuis 2 ans peut-être. Et puis Katarina, on s'était dit que ça serait sympa de faire quelque chose ensemble, mais comment on va mettre ça en œuvre ? Et on a visité la galerie des Trois Murs et la salle des toiles peintes qui est attenante à la galerie. Et la salle d'étoiles peintes, c'est un lieu du patrimoine de Savenières. La galerie des Trois Murs, c'est à Savenières. Tout se passe à Savenières. Et avec Katharina, on s'est dit, mais Katharina, il faut que on fasse quelque chose ici. Elle travaillant déjà autour des animaux, ça donnait du sens à quelque chose. On avait déjà envisagé des choses ensemble, mais on les concrétise, enfin.
Et oui, du coup, c'est le territoire de la Savenière, avec Savenière, ses vignes. Ouais. Savenière, oui, avec ses vignes, son histoire géologique. Comment ça a influencé votre travail artistique? Pourquoi ce lieu, tout ça?
Alors, en fait, par exemple, moi, c'est la première fois que j'ai visité Savenière. J'ai compris qu'il y a telle variété de pierres dans les vignes. Parce que l'enjeu, ça situe dans l'encontre de deux types de formations géologiques qui offrent un éventail exceptionnel à large type de pierres. Et moi, personnellement, d'habitude, je travaille avec des pigments, du bleuat mélangé d'huile. Et tempéra, c'est avec lien des œufs. C'est du travail comme des anciens. Donc, quand on m'a expliqué telle variété de pierre dans les vignes, et alors, comme elle sculpte déjà des pierres, elle a des connaissances de pierres, à partir de là, on a imaginé qu'est-ce qu'on peut faire avec création artistique, avec pierre dans la vigne. Donc, même on a eu une collaboration avec Vigneron de Madame Loche.
La Roche.
Et qui nous a autorisé de rentrer dans leur vigne.
Et de prélever quelques cailloux.
Oui.
Oui, puis tu as remarqué aussi que ces pierres-là présentaient des couleurs vraiment très variées. Ouais. Et donc, l'idée vous est venue d'utiliser toutes ces couleurs et
que
ces pierres.
Moi, je les sculpte et qu'on récupère les poussières de ces pierres pour que Aya puisse en utiliser les couleurs.
Et justement, pour utiliser ces couleurs, comment se passe le processus pour retirer le pigment de ces roches et l'utiliser après sur des toiles ou des choses comme ça?
Alors, on passe par des filtrations. Alors, moi, je les travaille à l'eau, déjà. Alors, on s'est bien organisé pour pouvoir récupérer chaque poussière de chaque pierre. Et,
en utilisant des outils électriques.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ouf.
On les travaille à la disqueuse ou à... Et donc, on récupère les jus de ces pierres. Et
Elle travaille avec l'eau. On dit des jus.
Oui, ça fait des eaux.
Des boues.
Et on fait décanter ces boues et on récupère la poussière la plus fine possible.
Oui, vous travaillez avec tout ce que la nature vous propose, tout ce que vous avez sous la main, et vous travaillez ensemble. Mais est-ce que vous travaillez chacun de votre côté ou il y a justement des groupes pour certaines œuvres qui se sont créées pour cette exposition?
Justement, là, c'est donc trois duos. Avec Aya, on travaille ensemble, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas. Moi, je travaille dehors, elle travaille en intérieur, mais elle vient travailler chez nous. Elle vient travailler sur Savenières, en tout cas, pour qu'on soit connecté quand même, et puis qu'elle récupère les poussières. Tout ça se mêle. Il faut absolument qu'on soit à côté. Oui, il faut que tu aies de la matière première à disposition. Et... On travaille pas toujours conjointement, mais là, par exemple, cet après-midi, on va avoir une partie qu'on va réaliser ensemble.
Et du coup, on va voir aussi un peu avec Jolion. Vous avez filmé toute la préparation de l'exposition. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le processus, dans ce processus collectif?
J'ai filmé une grande partie, en tout cas, une bonne partie. Comment dire, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est justement de filmer les artistes au travail. Et effectivement, il y a des moments où ils étaient tous dans leur coin. À travailler, à cisailler, à couper, à peindre et ou à coudre. Et j'ai fait un espèce de plan séquence où on les voit tous en même temps, on dirait agir sur leurs matériaux, et c'est très intéressant. Donc cette espèce de synergie en fait qu'on essaye de restituer à l'image, à l'écran, pour voir vraiment le processus. Donc c'est assez original en fait. Voilà. Et à la fin ça fait quelque chose de commun. Voilà, on débouche sur quelque chose d'assez pluriel. C'est assez étrangement beau. Voilà.
Bah merci beaucoup, Jolion. Et vous restez avec nous pour parler de l'exposition Pierre Feuille Ciseaux, mais d'abord une petite pause musicale. Wagenageno de Gondawa, vous êtes toujours sur Topette, sur Radio G, au 101.5 FM. Et on retrouve nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Nous sommes toujours avec Aurore, Aya, Yann et Jolion pour parler de leur exposition Pierre-Feuille-Ciseaux. On va rentrer un peu dans les pratiques de chacun, en commençant par Aya. Vous travaillez la peinture. Que change l'utilisation de pigments issus de la pierre par rapport à des pigments traditionnels ?
Alors, par rapport à pigments traditionnels, c'est vrai que d'habitude, j'utilise des pigments qui viennent d'Allemagne. Donc, certaines pierres qui sont déjà récoltées de manière naturelle aussi, je travaille déjà comme ça habituellement. Mais c'est vrai que il y a certains traitements des pigments qui sont dans le magasin d'art. Mais là, à Sabenière, on travaille vraiment avec pigments naturels. Et donc, toutes les couleurs, c'est bien sûr couleur de terre, c'est plus de variantes très délicates. Et là, par exemple, moi j'ai contact avec mon ancien école des beaux-arts au Japon qui a un atelier de fabrication de pigments. Donc avec le responsable, on a échangé et lui, il explique la beauté de travailler pierre naturelle. C'est comme avec n'importe quelle association qui marie très bien. Donc c'est comme symbolise n'importe quelle pierre de la terre de tel pays, on mélange, mais si pierre, la beauté de pierre naturelle, c'est, ça donne vraiment un mariage très doux, beau, donc un peu symbolise de la paix. C'est, il m'a dit ça, ça m'a touché. Donc je découvre cette beauté de pierre naturelle à Sabenière.
Oui, c'est des couleurs du coup assez spéciales qui viennent de la nature, qui sont assez rares et qui ont une émotion différente que celle qu'on connaît. Yann, vous êtes sculpteur de bois. Comment votre travail dialogue-t-il avec ces pierres et est-ce que vous travaillez aussi le bois pendant cette exposition ?
Disons que le matériau premier, c'est le livre. C'est autour d'un héritage de livre de la bibliothèque de mon père. Que l'on a eu l'idée de former notre duo et donc en commençant par la volonté de personnaliser la pierre tombale de mon père comme c'était un grand lecteur et qu'il a une bibliothèque immense, on avait décidé de représenter des livres fermés, des livres ouverts ou à l'envers, enfin dans des positions variées sur la pierre tombale. Et partant de là, on prolonge cette première action par le duo qu'on forme à la Galerie Trois Murs en installant une partie de sa bibliothèque et en reproduisant des assemblages de livres, en repensant une bibliothèque un peu invraisemblable, une bibliothèque aberrante que l'on va installer dans la galerie.
Donc un peu une œuvre qu'on connaît tous, une bibliothèque, mais qui sera un peu transformé, on verra, il faut venir pour savoir.
Oui. Le livre a une autre place que ce qu'il a habituellement.
Oui, c'est le livre est pris dans ses aspects formels, quoi, comme matériau de sculpture.
Et du coup, il y a aussi un troisième duo, une troisième œuvre.
Oui, alors juste dans ce duo-là, on aura aussi du papier, du son et du bois donc, et de la pierre. Qui interviennent comme matériaux. Après, on va peut-être pas trop en dire non plus.
Oui, il faut en garder, faut garder la surprise.
On va pas donner trop d'images.
Et du coup, pour la troisième œuvre, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus pour le troisième duo ?
Alors, le troisième duo, c'est donc le duo avec Katharina, qui sera présenté dans la galerie des toiles peintes, dans la pièce des toiles peintes, comment on l'appelle ? La salle des toiles peintes. Donc dans ce duo-là, notre duo il consiste en deux sculptures qui s'emboîtent. Voilà, c'est un emboîtement de deux pièces. C'est des poupées gigognes, on peut appeler ça, ou des poupées russes, je sais pas comment on peut dire. Et donc moi j'ai travaillé la pierre pour ce duo-là et Katharina, elle travaille le cuir. Le cuir, un matériau recyclé d'un...
Et votre représentation fait écho avec ce que l'on voit sur les toiles peintes de cette salle.
Le paysage environnant, voilà. Mmh. C'est comme une extraction de, pour ma part, de mauvaises herbes. J'aime bien travailler autour de l'idée de mauvaises herbes, de ce qu'on appelle mauvais, en tout cas.
C'est le fait peut-être que tu as déjà travaillé en taille de pierre sur l'ornementation, qui utilise des herbes toutes assez
les herbes
nobles,
qui sont nobles.
Et les feuilles d'acanthe, c'est d'aller chercher les fleurs de lys. Les
feuilles
autres.
Qui sont peu représentées en général, et que même on peut être amené à consommer. Enfin, il y a toute cette idée aussi de qu'est-ce qu'on jette. Et là, donc, c'est comme si on avait extrait un tas de feuilles du paysage environnant, qui est très policé d'ailleurs, qui est très organisé sur les toiles. Mmh. Il y a un jardin à la française, il y a une végétation luxuriante un peu et présente, enfin luxuriante, domptée en tout cas. Et donc il y a ce tas de feuilles et une protection, une montagne protection. Et elle est dans un Katharina, sa pièce qui vient pour. Dans l'idée protéger l'autre, mais évidemment on ne va pas la mettre sur l'autre puisqu'on ne verrait plus l'une. Mais la pièce de Katharina, elle est plus dans le focus lointain. C'est comme un mont, comme une montagne.
Et elle rapportera aussi quelques animaux qu'elle a déjà dans sa collection.
Et aussi on va avoir des sculptures de Katharina qui ont vraiment leur place dans ce lieu puisque c'est
sur les tapisseries,
comme si c'était des animaux extraits des toiles.
Beaucoup d'oiseaux.
Du coup, ça reprend vraiment tous les codes de la nature. Est-ce que c'est assez proche du land art ou pas? Land art, c'est un peu de l'art contemporain avec les matériaux de la nature. C'est un rapport où vous avez vraiment créé votre art à vous, votre...
Bah, land art, c'est en extérieur en général. Donc, et puis, c'est plus à plus grande échelle, j'ai envie de dire. Mais là, non, on ne peut pas appeler ça land art, mais plus de l'installation. De la sculpture à proprement parler. Aya, elle sort aussi de la peinture sur châssis habituelle, donc là on est vraiment dans des installations communes.
Oui, c'est plutôt concept lié à la nature. Donc.
Et du coup, vous avez déjà créé les œuvres, est-ce qu'elles ont évolué ou changé de direction au cours du processus, ou vous êtes directement resté sur votre idée de départ?
On est en train. Hein.
Oui, toujours, toujours en train.
On y travaille...
D'arrache-pied.
Est-ce que du coup les projets continuent dans la direction que vous voulez ou vous devez vous adapter aux matériaux que vous avez?
On s'adapte quand même pas mal, ça a beaucoup évolué. Pour le projet des livres, il est en perpétuelle évolution.
Moi,
verra vraiment à quoi ça ressemble au moment où ce sera posé dans la salle.
Ça a commencé par une simple représentation et ça a évolué vers des représentations aberrantes, des représentations improbables. Des enchevêtrements de livres qu'on ne pourrait pas réaliser avec des vrais livres.
Et par contre, avec Aya, on avait quand même un projet bien établi. Toi, tu avais bien travaillé aussi. Tu travaillais en Photoshop au départ.
Mais j'ai eu très bonne surprise que j'ai vraiment pas imaginé que je peux avoir autant de variations de couleurs. Donc c'est là, il faut avoir sur place dans l'exposition parce que vraiment vous allez marcher dans la nature de Savenay ou même à côté d'un dur, on ne imagine pas que on peut faire vraiment création avec des pierres qu'on trouve dans la lieu, dans les vignes.
Grande diversité.
Et puis heureusement on a eu une coopération avec géologue de l'université à Angers.
Fabrice Redois,
qui nous a vraiment expliqué chaque spécificité de pierre. Il nous a coupé des pierres pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça dépend de ça aussi. Ça a évolué à concerne mon travail. Des pigments adaptés pour peindre avec huile ou d'autres matières. Donc oui, ça, quand même, ça a changé par rapport à l'idée de départ de prendre bonne direction, plus expérimentale. Ouais.
Et ta palette, c'est pas ta palette habituelle de couleurs.
Oui,
ça change du coup, j'imagine. Mais écoutez, merci beaucoup. On continue avec vous dans quelques instants. Mais avant ça, on retrouve Suzanne pour l'agenda culturel.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir, bonsoir. Ah, le mois de mars. Je vous avoue, niveau inspiration, c'est pas le plus facile. Il se passe pas grand-chose au mois de mars. Pas de vacances, pas de fêtes particulières et même pas de soleil. Bon, ok, il y a quand même la Fashion Week et ce dimanche, c'est la 98e cérémonie des Oscars. Mais ce que je vous propose, c'est du tout chaud. Pas loin de chez vous et pas sur une scène à Los Angeles accompagnée de je ne sais pas qui, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, non, tout ça c'est du surfait. Alors, première idée de sortie, la demi-finale de l'Open Mic Tour. Si vous aimez le rap, le chant et découvrir de nouveaux artistes, c'est clairement le rendez-vous à ne pas manquer. Le principe est simple, 8 artistes sélectionnés lors des soirées précédentes montent sur scène pour tenter de décrocher leur place en finale. Une finale qui se tiendra au Shabada le 2 avril. Donc jeudi prochain aura lieu la demi-finale à 19h30 à la salle Camille Lepage dans les quartiers de Haut de Saint-Aubin. Sur scène, rappeurs, rappeuses, chanteuses, chanteuses vont devoir convaincre le jury, mais aussi le public. Et justement, le public aura son mot à dire grâce à l'applaudimètre. Plus vous applaudissez, plus les artistes ont des chances de passer à l'étape suivante. Bref, une soirée pleine d'énergie, de découvertes et de talents locaux. Et le petit bonus, c'est l'entrée qui est à seulement 3 euros. Et en parlant de public, que diriez-vous du spectacle immersif The Jury Experience, le procès de l'IA meurtrière? Là, on change totalement d'ambiance. Direction le centre de congrès Jean Monnier pour un thriller judiciaire où vous devenez vous-même juré. L'histoire commence avec un accident, une voiture autonome provoque la mort d'une personne en évitant une collision. La question est donc simple, mais complexe. Qui est le responsable? Le créateur de la technologie, le propriétaire du véhicule ou l'intelligence artificielle elle-même? Pendant le spectacle, les spectateurs écoutent les témoignages, examinent les preuves et votent directement avec leur téléphone pour rendre leur verdict. Autrement dit, vous ne regardez pas seulement une histoire, vous y participez. Le spectacle dure environ une heure et promet une expérience assez unique ce samedi 14 mars 2026 de 19h à 21h. Et pour finir, un grand classique, le Lac des Cygnes. Ce célèbre ballet composé par Tchaïkovski raconte l'histoire du prince Siegfried et d'Odette, une princesse transformée en cygne par un sortilège. Un récit amoureux, de magie et de tragédie qui continue de faire rêver le public depuis plus d'un siècle. Cette nouvelle production réunit des danseurs issus d'écoles prestigieuses entre décors féeriques, costumes impressionnants et musique orchestrale. Le spectacle promet un vrai moment hors du temps. Alors voilà, rap, théâtre interactif ou ballet classique, finalement, même au mois de mars, il y a de quoi sortir et se cultiver. Et ça, sans aller jusqu'à Hollywood. Passez une bonne fin de semaine et à bientôt.
Merci beaucoup Suzanne. J'avais une petite question. Parmi les petites actualités que tu nous as données, est-ce qu'il y en a une que t'aimerais bien aller voir, que t'aimerais bien faire un petit favori?
Bah, je pense que mon favori c'est quand même l'IA, ce jury expérience. J'aimerais bien tester parce que j'aime bien le monde judiciaire, un peu les faits divers. Alors pouvoir moi-même mettre un peu dans le rôle même d'une enquêtrice, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est aussi adapté à un assez grand public, donc c'est plutôt chouette comme sortie.
Oui, c'est vrai que ça a l'air pas mal et en plus ça sensibilise face à l'IA. C'est deux en un, on profite et en même temps on apprend. Vous êtes toujours sur Topette, sur Radio G au 101.5 FM et on retrouve nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Nous retrouvons Aurore, Aya, Yann et Jolion pour parler de l'effet recherché de leur exposition Pierre Feuille Ciseaux. Vous décrivez l'exposition comme un voyage archéologique à travers le temps. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir en entrant dans l'exposition?
Ce sera un autre monde détourné, on va dire, voilà, quelque part. Tu peux détourner les choses ou les révéler, on va dire, d'une autre façon.
Est-ce que c'est nous qui pouvons dire ça?
Chacun aura sa lecture, en tout cas.
Ouais. C'est assez subjectif.
C'est vrai qu'on est un petit peu, on n'a pas le recul suffisant. Bon, après, ce qu'on va y voir, ça va être une toile, des cailloux et des sculptures en cuir et des installations avec des livres et
mais on n'a pas anticipé sur l'effet, on n'a pas un effet désiré.
On avait une grosse envie de travailler ensemble, surtout.
Oui, c'était ça qui vous a poussé. Et après, l'effet, vous le saurez quand le public va réagir
à vos... Quand on aura le recul suffisant pour pouvoir en tirer quelque chose.
Et est-ce que les œuvres racontent une histoire commune ou plusieurs histoires, justement, y a plusieurs histoires en fonction de l'œuvre? Ou est-ce qu'on peut toutes les lire en même temps en voyant toutes les œuvres?
Ben non, déjà, c'est dans trois salles différentes. Les trois duos sont dans trois salles différentes et c'est une histoire différente dans chaque duo.
Oui, je pense aussi que c'est chaque salle raconte une chose différente.
Oui, mais on a commencé à trouver les mots communs comme extrait. Donc, par exemple, extrait de pigments à partir de pierres, extrait des mots avec des livres.
Les mots, les formes, surtout extraire des formes à partir d'une bibliothèque, voir comment des livres peuvent donner lieu à des formes plus ou moins abstraites.
Extraire des mauvaises herbes et peut-être un paysage dans le paysage. Enfin,
extraire l'essence de l'art quelque part, voilà, de toutes les formes.
Pour les livres, on s'écarte du contenu du livre. On est surtout dans l'aspect formel du livre.
Des extractions extraordinaires. On a pensé à ça, cette expression.
C'était un beau nom aussi.
Extraction extraordinaire. Oui. Voilà, ça va peut-être faire partie de notre notre petite présentation.
La recherche du titre, on ne l'avait pas trouvé celui-là.
On a fait des briefings intenses sur la recherche du titre, effectivement. C'était assez
surprenant. Mais Pierre Feuille-Ciseaux, ça nous plaît bien.
Oui. Oui. C'est connu de tout le monde peut reconnaître, et en même temps derrière, il y a une petite métaphore, c'est très bien.
Voilà.
Et est-ce que travailler ensemble, tous ensemble, a changé votre regard sur votre propre pratique artistique ou sur celle des autres? Est-ce que ça a créé quelque chose?
Oui, parce que comme on expose ensemble, mais en ce moment, on travaille ensemble dans le même lieu, même chacun a un petit coin de travail. Bien sûr, on y va boire, qu'est-ce que elle fait Olor et qu'est-ce qu'elle fait Yann. C'est très, très stimulant. Et bien sûr, on a une bonne influence.
Et ça nous donne justement un regard extérieur qu'on n'a pas forcément quand on travaille seul dans son coin. Et on est souvent confronté à la solitude de l'atelier quand on est artiste plasticien. Et c'est vrai que cette provocation de duo ou de travailler quatuor, c'était l'idée d'être moins face à cette solitude et d'échanger.
Moi, j'ai été touché par cette espèce d'intimité des matériaux qui se croisent, qui sont proches les uns des autres, et aussi le fait que les ateliers soient tous au même endroit finalement. Donc, il y a une sorte d'interrelation. Les gens qui vont, qui viennent, etc. Il y a quelque chose comme ça qui est très intéressant. Voilà. Dans la création.
Oui, ça crée des liens entre les matériaux, mais aussi entre vous, artistes. Et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à venir à l'exposition?
Viens jouer avec nous.
Oui, parce que, spécificité, c'est quand même, on travaille très localement pour l'exposition à Savenay, mais on est international aussi. Moi, je suis d'origine japonaise, et puis
Katarina Slovaque.
Slovaque.
Non, arrête, dis pas de bêtises. Je l'ai pas dit. Et Yann Breton.
Oui, donc ça, c'est un peu un mélange des matériaux, de la culture, de tout ça.
Oui.
C'est un beau message et merci pour tout ce savoir et ces découvertes. On vous retrouve en fin d'émission pour les infos pratiques. Maintenant, on écoute Mathéo et sa chronique d'actu.
Topette sur Radio G.
Jeudi 5 mars dernier, plusieurs agriculteurs membres de la Confédération Paysanne 49 se sont réunis aux Alleux. Un barrage filtrant est ainsi mis en place par le syndicat pour alerter les locaux, habitants ou élus du projet de mégabassine qui secouera probablement la petite localité qui jusqu'alors n'en savait rien. Si l'on définit de manière littérale les mégabassines, il s'agit de réserves de substitution à ciel ouvert, plastifiées et alimentées par le pompage de nappes phréatiques ou de cours d'eau durant l'hiver et destinées à stocker de l'eau pour l'irrigation agricole intensive lors de périodes de sécheresse estivale. Mais les problèmes liés à ces installations... Il y en a bon nombre. Thierry Voyard, membre de la Confédération Paysanne 49, nous explique la spécificité du cas alleusien.
On n'est pas du tout dans un problème à agricole ni alimentaire, en fait, avec cette bassine. On est dans un problème de notables locaux, d'influence, de contournement juridique. Tout est fait dans le dos des citoyens qui ne sont au courant de rien. Ce projet est fait par une poignée de personnes, au profit d'une petite poignée de personnes. Il a un impact pour tous les habitants du coin, et il ne profiterait même pas ça ne servirait même pas à nourrir ces habitants-là au final. C'est bien ça qu'il faut comprendre.
La société allemande Heidelberg Materials, ex-GSM, qui possède la carrière des Halleux, semble en avoir fini avec l'emplacement après plus de 20 ans d'exploitation. Dans le cas présent, ils font faire passer ces terres en terres agricoles avec différents projets, dont une méga-bassine. Or, on le sait, c'est observable dans le marais Poitevin, ces grandes réserves d'eau assèchent les terres alentours qui deviennent impraticable. Une installation qui fait aussi partie de ce package de terres agricoles, alors qu'un sol artificialisé de manière définitive ne l'est en réalité absolument pas. Évidemment, cette méga bassine de 350 000 mètres cubes, qui au passage fait la moitié de la capacité de celle de Sainte-Soline, ne fera pas la taille entière de la carrière. Une partie de ces terres transformées en fameuses terres agricoles ne sera jamais utilisée, bien qu'il soit question pour les propriétaires du terrain que d'ici quelques années, ces dernières deviennent exploitables. Or, un sol qui n'aura pas pu cicatrisé car privé d'eau le sera également de vie. C'est très compliqué de cultiver des sols qui se trouvent à proximité des méga-bassines puisqu'ils ne sont plus alimentés en eau comme ils le devraient l'être par les nappes phréatiques qui sont donc utilisées pour l'arrosage de surface qui installe une sécheresse visible même en hiver. Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne, revient sur les côtés négatifs de ces installations. C'était au micro de Blast en mars 2023.
Les bassines, c'est vraiment l'archétype de l'anti-solution pour nous en termes de stockage de l'eau, puisqu'on va sortir de l'eau des nappes phréatiques, qui est le meilleur endroit de stockage, pour les mettre dans une bassine pleine de plastique, à l'air libre, avec de l'évaporation. Voilà, déjà techniquement, dans le cycle de l'eau, c'est vraiment pas une solution. En plus, ça empêche, tant qu'on continue avec des projets de bassines, on réfléchit pas à d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on veut un moratoire, pour pouvoir se poser et réfléchir. Et puis après, ces bassines aujourd'hui, elles sont au service d'un modèle agricole, d'un type d'agriculture, beaucoup basé, pas exclusivement, mais beaucoup sur du maïs et sur l'export. Ça nous semble aujourd'hui complètement à contresens, à rebours de l'histoire, que de continuer à mettre de l'eau pour ce genre de système. Nous, on voudrait d'abord dire que le meilleur stockage de l'eau, c'est dans les sols. Ça va être, et d'une part, dans les nappes phréatiques, c'est le grand cycle de l'eau, l'eau va nous être rendue ensuite dans les cours d'eau et ce genre de choses, et du stockage dans nos sols, dans nos parcelles, avec des sols vivants, des sols qui peuvent garder l'eau et dont les plantes pourront bénéficier sur plus longtemps que juste arroser.
Les méga-bassines représentent une catastrophe écologique et agricole, et le projet qui prendrait place aux Halleux pourrait y aller très fort en ce sens. L'autre partie des terres serait utilisée pour un projet dit agrivoltaïque, c'est dans le nom, avoir des panneaux solaires sur des terres agricoles, une nouvelle artificialisation des terres qui ne l'étaient pas jusqu'alors, et ce sur plusieurs hectares, à nouveau. Ce concept made in France peut paraître idyllique, avec des coûts très bas et des rendements assez importants, mais toutes les études de l'INRAEM montrent que des baisses de rendement significatives prennent place sur les terres qui sont couvertes par ces panneaux à plus de 20%. Ce sont donc des installations qui rendent les terres encore moins fertiles, et si on ajoute cela aux méga-bassines, on s'imagine mal voir un jour des plantations dans les sols halleusiens, surtout que ce n'est pas le seul problème.
C'est une captation de l'eau qui se fait sur les réseaux profonds et structurants du territoire. Donc c'est un bien commun qui se fait, qui est en jeu en fait. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux qui sont des enjeux à la fois locaux mais aussi des enjeux juridiques beaucoup plus importants, parce que la méthode qu'il y a là de faire passer la pilule en fait en disant qu'une bassine serait une compensation de destruction de terres agricoles, d'un point de vue juridique, c'est extrêmement dangereux. Parce que si c'est accepté, et ce ne serait pas vraiment accepté en fait, mais ce serait plus, ça passerait en douce, ça pourrait servir à faire jurisprudence pour d'autres personnes plus tard qui voudraient s'installer et faire des compensations du même style.
Mais alors à qui profiterait ce projet? Eh bien finalement à pas grand monde au niveau local. On parle surtout de grandes exploitations agricoles, d'une douzaine selon la Confédération Paysanne, qui dénonce une rupture d'équité.
Ce n'est pas du tout une question d'autonomie alimentaire, c'est une question d'influence géopolitique. Il faut être clair, hein. C'est dans le Maine-et-Loire n'est pas nourri grâce aux semenciers qui prospèrent au Maine-et-Loire. L'autonomie alimentaire, elle se fait par la production locale, par les éleveurs, par les maraîchers, par les paysans boulangers, par ce genre de choses, mais elle n'est clairement pas faite par la production de maïs semences. La production de maïs semences, c'est une c'est une production stratégique d'influence internationale et d'exportation. Et ça permet de nourrir, et ensuite, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Donc, il y a un enjeu pour eux de maintenir ça coûte que coûte et de sécuriser cette production aux dépens des autres, parce que il y a un maraîcher, il y a deux maraîchers sur la commune des Alleux. Ces deux maraîchers-là ne profiteraient pas de l'installation d'une bassine. Il y en a un d'entre eux qui en plus est dans un problème juridique où il n'a plus le droit de pompe d'utiliser son forage parce que il serait situé trop près de l'aubance et de nappes superficielles. Et cette personne-là, en fait, est dans un problème d'irrigation et la bassine ne vient absolument pas résoudre son problème à lui d'irrigation. Et il n'a jamais été concerté dans le projet. Même chose pour un autre maraîcher aux Alleux qui ne profiterait absolument pas de ça. Et tout est fait dans l'eau, et tout est fait dans le dos.
La Confédération Paysanne organise une manifestation contre ce projet de méga-bassine à Brissac-Quincé le 11 avril prochain. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, l'interview réalisée avec Thibaut Voyard est à retrouver sur le site internet de Radio G dans la rubrique Topette Plus.
Topette sur Radio G.
Merci beaucoup Mathéo pour ce moment. Merci beaucoup à tous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, avez-vous un dernier mot sur l'exposition Pierre-Feuille-Ciseaux ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
C'est vrai, alors c'est une exposition qui va être installée pour le 4. À la Galerie des Trois Murs à Savenières.
Les dates, donc, c'est du 4 au 26 avril 2026.
Trois murs, quoi.
Et du vendredi, alors le vendredi c'est de 16h à 19h. Et le samedi et dimanche, c'est de 10h à 13h et de 14h30 à 17h à la Galerie des Trois Murs.
Est-ce qu'il y a un site ou un compte Insta pour suivre?
Oui. Et il y a une newsletter de la... Il y a un site internet de la galerie. Oui.
Et comment il s'appelle le site, si vous savez?
La Galerie des Trois Murs, non, on ne sait pas trop, mais on vous le
mettra en lien. Normalement, en tapant sur internet, on trouve assez facilement.
Oui, sur l'agenda de Savenir aussi.
Mais pas de souci. Et encore merci à vous. Nous, on termine l'émission en musique. Passez une excellente soirée sur Radio G au 101.5 FM et topette!
so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell.
Keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.